journée de campagne, bonjour. Deuxième journée dans le département du Loir-et-Cher. Et si vous étiez déjà des nôtres hier, je vous disais que souvent, ce sont des parcours de vie avec des revirements, des reconversions ou des retours au territoire de départ qui conditionnent les initiatives. Elles peuvent être simples, atypiques, collectives ou individuelles. Elles donnent toujours des idées ou suscitent des envies et elles sont à ce titre toutes précieuses. C'est par exemple le cas de Christophe, qui a débuté sa vie professionnelle comme enseignant dans le primaire, avant de retourner lui-même en enfance, en était-il sorti d'ailleurs. Donc Christophe est maintenant créateur de jouets en bois, de stylos aussi et d'objets tournés, dans son atelier de Thésée, commune de 1150 habitants, célèbre pour ses ruines gallo-romaines au sud du département du Loir-et-Cher. Thésée comme taiseux, car Christophe n'aime pas parler dans le poste, alors je le fais pour lui, et notre créateur anime également des stages de travail du bois, son atelier. L'atelier s'appelle Au fil du bois. Sur le site, il faut écrire au fil du bois.fr. À l'inverse, nous avons des causeurs. Aujourd'hui, ils sont Jean-Philippe Baudouézy, fondateur d'un éco-centre à Pierrefitte-sur-Sauldre, et Guillaume Legret, directeur d'antenne d'une radio née d'un projet scolaire à Blois, Radio Zef.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Jean-Philippe Baudouézy, bonjour. Jean-Philippe, fondateur avec Anne de l'éco-centre du Bouchot. Quand on parle d'éco-centre, et vu les démarches que vous avez depuis 15 ans, je pense tout de suite à la ferme du Bec-et-Loin. J'ai bien raison ?
Oui, absolument, Charles et Perrine, parce qu'on crée aussi un éco-centre au Bec-et-Loin.
Parce qu'il y a une même démarche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 ans pour que vous investissiez le site de cette ferme, ancienne ferme sur la commune de Pierrefitte-sur-Sauldre ? C'était la logique de votre vie ou c'était une rupture et une nouvelle vie ?
C'était les deux. C'était les deux. J'avais consacré quelques dizaines d'années à la conservation de la nature, des milieux naturels, des espèces, à travers des organisations comme Europe Conservation et Ecorampa, et donc aussi les combats pour l'Amazonie, pour les baleines, etc. Et puis tout d'un coup, il y avait le besoin de se poser quelque part et de se réenraciner peut-être.
Oui. Composer et recomposer, parce qu'il a fallu surtout recréer un espace naturel qui avait été largement perturbé par des activités agricoles ou des activités d'élevage précédentes.
Par des activités d'agriculture conventionnelle, oui. Qui avaient laissé les alentours de la ferme un peu comme un désert. Oui.
Vous auriez pu en faire un lieu simplement d'accueil, pourquoi pas, il y en a de nombreux en France. Vous avez voulu faire autre chose ?
On voulait faire absolument quelque chose qui soit autour de la formation, au départ de naturaliste, et puis est arrivée la rencontre avec la permaculture, et avec aussi ce constat que finalement, beaucoup de nos terres sont très dégradées, et c'était le cas autour du Bouchotte, et que donc il fallait recréer des écosystèmes productifs et durables. Et après est venue l'idée d'en faire un lieu d'expérimentation, de formation et d'accueil.
Ah oui, et je vous ai entendu dire le Bouchotte.
Oui, hein? Ici les gens disent le Bouchotte.
Ah, d'accord.
Certains ont dit le Bouchotte.
Ouais. Après le repos des terrains, vous avez décidé de constituer, alors là, vous allez nous expliquer, un jardin forêt comestible.
Oui, c'est les travaux d'un Anglais qui s'appelait Robert Hart, qui est décédé il y a quelques années, et qui avait... montrer que finalement la nature est encore plus productive quand elle se rapproche de la forêt. Et que pour nourrir l'humanité, peut-être ce serait une bonne idée de se rapprocher vers des systèmes qui soient extrêmement productifs. Mmh. Et donc de transformer cette forêt en une forêt comestible, donc de cultiver dans cette forêt, quelque part, des arbres fruitiers, des arbustes, des grimpantes, vous voyez, tous les étages de la végétation. On va jusqu'à 7 étages de végétation, en zone tropicale, chez nous, 5, 6, c'est déjà bien.
Ouais, et vous l'avez installé sous forme de mandala, c'est-à-dire en cercle.
Oui, vous savez, le mandala, c'est une paterne, hein, c'est une forme qu'on trouve dans la nature, mmh. Et qui a été utilisée par toutes les civilisations. Les rosaces de nos cathédrales sont des mandalas, Stonehenge est un mandala, etc. Pourquoi est-ce qu'on a fait un mandala au départ ? Je ne peux pas trop vous répondre, c'était une intuition. Mais on s'est aperçu après que c'était très intéressant comme forme et que ça a créé aussi un espace, je dirais, de communication entre les plantes. Vous savez que les plantes communiquent entre elles. Maintenant, on commence à s'en rendre de plus en plus compte. Et là, on s'aperçoit que finalement, elles se renforcent. C'est comme une cellule vivante.
Oui, ah oui. Alors, vous avez implanté un second jardin que vous avez baptisé Céligonia, et qui possède en son centre, alors là c'est encore point d'interrogation, un zoome. Qu'est-ce que c'est qu'un zoome ?
Alors pour le coup c'est une invention. américaine, enfin d'un américain, dans les années 70. Donc c'est une forme architecturale qui est comme un double hélicoïde. Vous voyez, c'est une spirale ascendante, et donc c'est une forme très particulière, qui est très intéressante. Pour, alors, elle est tout en bois, ce zoom est tout en bois. Je crois que c'est le troisième par la taille en France, parce qu'il n'y en a pas énormément. Il fait 60 mètres carrés.
Ah oui.
Et beaucoup de gens l'apprécient pour y faire du yoga, de la danse, de la méditation, ou des séances de travail, puisqu'on a des entreprises, beaucoup d'entreprises sociales et solidaires qui viennent faire des stages chez nous.
Comment vous voyez l'avenir de la société à travers ce que vous proposez, la permaculture, le travail sur les symboliques, la reconnexion à la nature et aussi à une autre société? Comment vous voyez l'avenir, Jean-Philippe?
Ben écoutez, si je m'en tiens aux jeunes que je vois passer au bouchot en woofing ou en workaway, etc., j'aurais un certain optimisme parce que je vois des jeunes qui sont en quête de sens dans leurs activités, dans leurs actions, et donc tant mieux. Si je vois l'évolution globale de la société, je vais être un peu pessimiste parce que du coup, là, on trouve que ça avance pas assez vite. Il n'y a pas cette reconnexion indispensable pour moi avec le milieu naturel. Et je crois que si je vois une évolution possible de la société, ce sera nécessairement plus reconnecté à la nature. Je ne crois pas que les grandes villes soient l'avenir de l'humanité. C'est mon point de vue.
Oui. Et dans les prochaines formations à venir, il y a l'initiation à la permaculture, mais vous allez voir le détail et le programme sur le site du Bouchot ou du Bouchotte, comme vous voulez, avec un T, lebouchot.com. Il a la page Facebook aussi, Éco-Centre Le Bouchot. Merci Jean-Philippe.
Mais merci Philippe et merci à vous.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand. Sur France Inter.
Un club pas comme les autres, c'est le club de la Chênaie. On a déjà parlé les années précédentes. Cette association, née en 1959, joue le rôle d'interface entre le monde psychiatrique, puisqu'il est associé à la clinique de la Chênaie, et le monde extérieur. La Chênaie, c'est une référence depuis longtemps dans la remise en cause du renfermement asilaire par l'insertion du malade et par la volonté d'introduire de la citoyenneté grâce au pont tendu vers le public extérieur. Cette démarche se concrétise par des actions culturelles telles que des ateliers artistiques dans la clinique, par des fêtes périodiques ou des sorties culturelles. Le club a mis au point un service d'aide à la sortie par les liens qu'il entretient avec les associations partenaires. Il est installé à Chailles, au sud de Blois, et il vous invite à ses propositions mensuelles de théâtre, de jazz en mai par exemple, ou à sa fête le 15 juin prochain. Le site, c'est Club de la Chênaie, ça s'écrit C-H-E-S-N-A-I-E, clubdelachênaie.org. Autre exemple d'animation culturelle et artistique dans la campagne blésoise, la compagnie Jean et Faustin. Drôle de nom pour cette compagnie de spectacle vivant, dirigée par Juliette, correspondante des carnets, merci Juliette, et clown, on peut mettre un E maintenant, clown E de son état. Juliette prévoit la création d'une AMAC, une association en mouvement vers des alternatives culturelles, et la réhabilitation de la grange qu'elle investit en ce moment. C'est là où se trouve l'explication du nom Jean et Faustin, deux demi-frères paysans, figurent du village de Suèvre où se situe cette grange. L'esprit de partage qui planait sur cette ferme est repris dans ce projet qui se veut être au plus proche des gens du pays avec des spectacles itinérants, mais aussi des ateliers sous un principe énoncé de cette manière. Le décalage est notre caractère, la fantaisie notre émotion et le rire notre voix. L'adresse internet, c'est jean-faustin.eu. Guillaume Legret, bonjour.
Bonjour.
Guillaume, directeur d'antenne, vous êtes mon supérieur hiérarchique, vous êtes directeur d'antenne. Vous êtes directeur d'antenne à Studio ZEF, une radio qui existe depuis 2008, qui émet sur 91.1, 24h sur 24, mais aussi sur Internet. Et en fait, c'est d'abord une radio scolaire qui a été décidée, voulue, par l'Office central de la coopération à l'école en région Centre-Val-de-Loire. Et ce serait bien d'en parler. Vous pouvez nous raconter la genèse de cette radio?
À la base, c'est une caravane radio qui sillonne le département du Loir-et-Cher pour aller d'école en école et créer des projets pédagogiques avec des élèves qui rentrent dans cette caravane radio, il y a un studio, et qui viennent réaliser des émissions. Et en 2008, une fréquence fixe s'ouvre à Blois. C'est ainsi que naît Studio ZEF, avec eh bien une autre ambition, celle d'avoir un rayonnement continue 24 heures sur 24 sur le Blaisois.
Oui. Alors, parce qu'au départ, donc, il s'agit de l'Office central de la coopération à l'école qui oui. Initie ce mouvement-là. Et ce qui est drôlement bien, c'est bien de parler de cet office, c'est que sa pédagogie est une pédagogie coopérative. L'idée, c'est de pouvoir travailler ensemble et d'apprendre à faire ensemble. Et la radio peut être un bon vecteur pour apprendre à faire ensemble.
Bah, vous êtes certainement bien placé pour le savoir, pour créer une émission.
Oui.
Il faut être plusieurs. On peut être seul derrière le micro, mais il y a toute une équipe qui nous entoure, que ce soit des techniciens, des journalistes, des rédacteurs. Et en fait, chacun peut trouver sa place dans la création d'une émission. C'est en total accord avec la pédagogie coopérative.
Oui.
Il dit qu'on coopère ensemble pour créer quelque chose avec un but commun. Et nous, c'est créer une émission de radio, généralement.
Et alors, vous sortez du champ scolaire, parce que vous travaillez aussi par les ateliers radiophoniques avec d'autres publics.
Oui, quand on a eu la fréquence en 2008, ça a été de s'ouvrir aussi. Ouvrir ce mouvement pédagogique qui est surtout en école élémentaire, de pouvoir porter ces valeurs avec d'autres publics. Donc on a vu que ça fonctionnait aussi très bien avec d'autres publics, que ce soit des papis, des mamies qui viennent au studio pour faire du théâtre radiophonique, des projets menés avec le SPIP de Blois, donc la maison d'arrêt de Blois avec des détenus,
oui.
Et tous des jeunes en difficulté ou des jeunes porteurs de handicap. Et en fait, on voit chez ces publics une valorisation de leur travail, une prise de confiance en eux au fur et à mesure que les projets se déroulent.
Mmh. Et alors vous avez justement, à propos de projets, en perspective, une nouvelle action que vous avez appelée Feuille vive, radio locale, un dialogue entre ville et campagne.
C'est bien ça. Pour s'implanter sur le territoire du Blaisois et questionner ce territoire, Blaisois est une petite ville et elle a un espace périurbain important.
Oui.
Où il y a plein d'initiatives locales portées par des acteurs très intéressants. L'idée, c'était de mettre en valeur ces acteurs par le biais de reportages et aussi de les mettre en lien grâce à des plateaux radio organisés à l'extérieur. Ce projet est en partenariat avec l'école du paysage de Blois et vient aussi poser des questions sur le lien entre la population urbaine et la population rurale.
Oui. Et donc ça va donner lieu à des reportages qui seront diffusés tous les 15 jours.
Alors les reportages sont même déjà diffusés, on peut les écouter sur Studio Zef qui est la fréquence blaisoise,
oui.
Et aussi sur Radio Béton, nos confrères de Radio Associative qui sont à Tours.
Et le site, si vous voulez suivre la démarche de cette radio au départ scolaire qui a pris une autre ampleur, Studio Zef, c'est studiozef.fr. Il y a la page Facebook aussi, les liens pour découvrir les multiples actions depuis 2008 de cette radio à Blois. Merci Guillaume.
Merci à vous et merci à toute l'équipe de Carnet de Campagne.
L'association étudiante Univers, alors vert comme VERT, comme la couleur, Univers, qui a à cœur la sensibilisation et la défense des problématiques environnementales, organise demain le village des alternatives, une rencontre avec une bonne dizaine de structures locales sensibles à l'écologie, à l'économie circulaire. On va parler de réemploi, de réparation, évidemment de pollution, d'agroécologie, tiens, vu ce qu'on bouffe de mauvais en ce moment, comme on l'a annoncé dans les infos depuis ce matin avec certains légumes et fruits. On va parler d'agroécologie plus précisément avec ce village des alternatives qui se tiendra demain à partir de midi mercredi au campus du Mans. C'est le bâtiment F face à l'arrêt de tram Campus Ribet, je dis ça pour les personnes qui connaissent bien la carte. Donc c'est demain ce village des alternatives organisé par les étudiants Univers. Et puis j'ai le temps de vous dire aussi que l'organisme de l'ADR local en Loire-et-Cher, justement on est encore dans de l'installation de nouveaux paysans en agriculture locale, en production locale de qualité. L'ADR, c'est l'association départementale de développement de l'emploi agricole et rural en Loire-et-Cher, ADR 41, propose des formations et accompagne les paysans qui veulent améliorer leurs pratiques et s'installer aussi autrement. Vous trouverez à notre page d'émission un lien avec l'ADR 41, donc Association départementale de développement de l'emploi agricole et rural.